Chapitre 5 Déchéance. Quelques jours plus tard, Mufa arrive chez Nana à une heure à laquelle il ne venait jamais. Il est très pâle, avec les yeux rougis.
« Qu'as-tu, chérie? Tu as eu des ennuis chez toi ?»
demande Nana. Il dit oui de la tête. Elle se tait, puis dit très bas.
« Alors, tu sais tout ?»
Il dit oui de la tête. La veille, il avait reçu la lettre de sa femme Sabine à son amant Faucherie, envoyée par Rose. Après une nuit affreuse où il avait rêvé de vengeance, il était venu chez Nana, où il venait toujours quand cela allait mal.
« Calme-toi, » dit la jeune femme. « Veux-tu savoir ce qui t'embête, chérie? C'est que tu trompes toi aussi ta femme. Écoute, mon chat, tu vas recoucher avec ta femme. »
« Tu es folle, c'est impossible. »«
Si, si, il le faut. Après tout, elle est ta femme. »
Et elle continuait ainsi, lui donnant de bons conseils. Elle parlait même de Dieu.
« Et l'argent? Où prendras-tu l'argent si tu te fâches ?»
demande-t-elle. Une ombre d'angoisse passe sur le visage de Mufa. Au retour des fondettes, la comtesse avait tout à coup montré un goût de luxe qui dévorait leur fortune. Mufa avait une idée pour avoir de l'argent, vendre les Bordes, une très belle maison qu'un oncle venait de léguer à la comtesse. Mais il avait besoin de sa signature. Puis, Nana, sans nommer Dagnet, demande.
« À quand le mariage ?»«
On signe le contrat dans 5 jours. »
Le soir du mariage, le comte Mufa entre dans la chambre de sa femme, où il n'était pas entré depuis 2 ans. Aucun des deux ne s'explique. Avant de se mettre au lit, il parle affaires. Le comte évoque la possibilité de vendre les Bordes. La comtesse donne son accord. Vers la fin de septembre, le comte Mufa arrive en fin de journée la prévenir qu'il ne pourra pas venir le soir. Et là, il aperçoit Nana dans les bras de Georges. Il crie.
« Ah !
Je t'en prie, mon chat, » dit-elle. « Il faut comprendre. Je ne peux refuser ça à mes amis pauvres. »
Le comte se calme. Il demande seulement le renvoi de Georges. Mais il ne croit plus à la fidélité promise. Un soir, Nana ayant dit que c'était sa fête, Philippe Hugon arrive avec un drageoir en porcelaine monté sur or.
« Tu es trop gentil, » dit-elle. « Qu'est-ce que c'est? Montre. »
« Fais attention, » murmure-t-il. « C'est fragile. »
Elle hausse les épaules. Mais tout à coup, le couvercle tombe et se casse.
« Oh, il est cassé !»
Elle rit. Les yeux du jeune homme se mouillent.
« Es-tu bête ?»
lui dit-elle tendrement.
« Si l'on ne cassait rien, les marchands ne vendraient rien. »
Elle rit, puis se pend aux épaules de Philippe et tendrement lui dit.
« Dis donc, chérie, pourrais-tu m'apporter 10 louis demain ?»
Philippe devient pâle, puis il dit simplement.
« J'essaierai. »
Puis, une minute plus tard. « Nana, tu devrais m'épouser. »«
Mais mon pauvre chéri, tu es malade. En voilà une bêtise, par exemple. »
Ce jour-là, Georges, malgré l'interdiction de Nana, s'était introduit dans l'hôtel. Caché derrière la porte, il avait tout entendu. Cette fois, il ne pouvait douter. Le lendemain, il entre dans l'hôtel vers 3 heures. À midi, Madame Hugon avait appris que Philippe était en prison depuis la veille au soir. On l'accusait d'avoir volé 12 000 francs à son régiment. Depuis 3 mois, il volait de petites sommes d'argent qu'il donnait à Nana. La vieille dame avait eu un cri de colère. Puis elle avait appris que Georges était sorti de bonne heure. Sa chambre annonçait un second malheur. Les draps étaient déchirés, une chaise renversée à terre. Georges devait être chez cette femme. Depuis le matin, Nana attendait Philippe et l'argent qu'elle lui avait demandé. Vers 2 heures, inquiète,
elle s'habille pour aller chez la Tricon. Quand elle avait vraiment besoin d'argent, c'était toujours ce qu'elle faisait. En quittant sa chambre, elle aperçoit Georges. Elle a un soupir de soulagement.
« Ah, ton frère t'envoie ?»
dit-elle.
« Non, » dit le petit en devenant tout pâle. « Écoute, je sais que tu vas épouser mon frère. Je ne veux pas. Tu vas m'épouser, moi.
« Hein? Comment? Toi aussi ? »
crie-t-elle.
« Ni l'un ni l'autre.
Alors jure-moi que tu ne couches pas avec mon frère.
Tu m'ennuies à la fin. Je couche avec ton frère si j'ai envie. Oui, je couche avec ton frère.
Ne dis pas ça. Adieu, bébé, c'est fini. Je dois sortir. »
Et elle le quitte. C'était la fin, il ne pouvait plus vivre. Il prend sur une table une paire de ciseaux très pointus dont Nana se servait. Puis il attend. Nana revient.
« Comment ? Tu es encore ici ? »
dit-elle.
« Nana, veux-tu m'épouser ?»
Elle ferme la porte, énervée. Il la rouvre et sort de sa poche les ciseaux qu'il s'enfonce dans la poitrine.
« Mais est-il bête ? »
crie-t-elle.
« Et avec mes ciseaux encore ! Veux-tu bien arrêter, méchant gamin ?»
Le petit, tombé sur les genoux, s'était porté un second coup.
« Zoé ! Zoé ! Le voilà qui se tue maintenant, et chez moi !»
Il était tout blanc, les yeux fermés. Elle allait enjamber son corps lorsqu'elle aperçoit une vieille dame.
« Madame, ce n'est pas moi, je vous jure. Il voulait m'épouser, j'ai dit non, et il s'est tué. »
Sans un cri, Madame Hugon se baisse. Agenouillée sur le tapis, elle écoutait, une main sur le cœur de Georges. Elle pousse un soupir. Le cœur bat. Nana tremblait.
« Je vous jure, madame, si son frère était là, il pourrait vous expliquer. »«
Son frère a volé. Il est en prison. »
dit la mère durement. L'autre avait volé à présent. Ils étaient donc fous dans cette famille. Madame Hugon fait monter Georges, qui est juste blessé dans sa voiture, et part. Depuis quelque temps, le comte avait beaucoup de soucis. La comtesse, lâchée par Faucherie, voyait d'autres hommes. Estelle, depuis son mariage, ne voyait plus son père. Seul M. Venot restait gentil avec le comte. Depuis quelque temps, il venait même parfois chez Nana. Le comte avait aussi des soucis plus graves. On ne voulait plus de lui comme chambellan. L'hôtel de Nana, lui, était devenu un enfer, une maison de fous. Muffa n'osait pas pousser une porte, tirer un rideau, ouvrir une armoire. Des messieurs traînaient partout. À présent, il toussait avant d'entrer. Dans l'angoisse de sa jalousie, le malheureux n'était tranquille que lorsqu'il laissait Nana et Satin ensemble. Mais Nana trompait Satin comme elle trompait le comte. Et Satin, énervé, hurlait dans l'hôtel. Nana, en quelques mois, avait mangé les hommes après les autres. Steiner avait fait faillite. La Faloise, qui voulait être ruinée par elle pour être chic et avoir son nom dans les journaux, avait été ruinée en 6 semaines. Nana, qui l'agaçait, le battait.
« Tu devrais m'épouser !» lui dit-il un soir après avoir reçu une gifle.
« Moi, t'épouser ? Je ne peux pas être gentille. Ils disent aussitôt « Veux-tu m'épouser ?»
Un soir, la Faloise disparaît. Il était parti vivre en province pour épouser une cousine très laide et très croyante. Nana dit au comte.
« Un rival de moi, tu dois être content. »
Mais un soir, Muffa, en arrivant, pousse un cri.
« Mon Dieu ! Mon Dieu !»
Une ruine comique et lamentable, le marquis de Choire en chemise, traînait sur le lit. Nana saute pour refermer la porte. Le vieux lui avait apporté 4000 francs et elle s'était laissée faire. Elle crie.
C'est ta faute. Est-ce qu'on entre comme cela ?
C'est trop, mon Dieu, c'est trop !
Répétait le comte. Il avait tout accepté, mais il ne pouvait plus.
Aidez-moi, mon Dieu. Non, pas cet homme. Prenez-moi afin que je ne voie plus, que je ne sente plus.
Quelqu'un le touchait à l'épaule. Il lève les yeux. C'était Monsieur Venot.
Mon frère, je souffre. Emmenez-moi pour toujours.
Monsieur Venot l'emmène comme un enfant. Dès lors, Muffa retombe dans la religion. Sa vie était foudroyée. Il donne sa démission de chambellan. Nana, elle, tombe peu à peu dans un gros chagrin. Son pauvre Muffa qu'elle ne verrait plus. Satin, disparu depuis 15 jours, en train de mourir dans un hôpital. Zoé, qui venait de lui donner ses 8 jours. Mon Dieu, qu'allait-elle devenir ?
Elle se traînait lorsque Labordette, un jour, lui apprend que Georges est mort.
Les uns parlaient d'une blessure ouverte, les autres d'un suicide.
Mort ? Je suis bien malheureuse. Ils vont encore dire que c'est ma faute. Cette sale fille qui couche avec tout le monde, qui ruine les uns, fait mourir les autres. Eh bien non, ce n'est pas ma faute. Ils me dégoûtaient. Ils voulaient tous m'épouser. Hein ? Une idée propre ? J'aurais été 20 fois comtesse si j'avais accepté. Eh bien, j'ai refusé. Je leur en ai évité des crimes. Ce n'est pas juste. La société est mal faite.
Nana brusquement disparaît. Des mois passent. Un soir de juillet, 2 amis de Rose se rencontrent dans la rue.
« Ma chère, Nana est de retour, » dit l'une. « Mais elle est peut-être morte pendant que nous parlons. »«
Morte ? Et où donc ? Et de quoi ? »
dit l'autre.
« Au grand hôtel, de la petite Vérole. C'est toute une histoire. » Nana arrivait de Russie. Elle va chez sa tante voir son fils qui a la petite Vérole. Son fils meurt le lendemain. Nana va vivre dans un hôtel, puis rencontre Mignon. Elle tremble, a envie de vomir. Mignon la ramène chez elle, mais elle tombe malade. La petite Vérole. Et voici le plus beau. Rose apprend la maladie de Nana et court la soigner en pleurant. Tu te souviens comme elle se détestait ? Eh bien, ma chère, Rose a déjà passé 3 nuits avec elle, quitte à en mourir.
Elles arrivent devant l'hôtel. Sur le boulevard, il y avait plein de voitures et de piétons. Dans la journée, on venait de voter la guerre contre la Prusse. Une bande d'hommes criait
« À Berlin ! À Berlin ! À Berlin !»
Voici Mignon. Il va nous donner des nouvelles.
« Je ne sais rien, moi, » dit Mignon. « Je ne peux arracher Rose de là-haut. »
Devant l'hôtel, sur un banc, un homme cachait son visage dans un mouchoir. C'était le comte Muffa.
« Il est là depuis ce matin, » dit Mignon. « Dès qu'il a su, il est venu. Toutes les 2 heures, il entre dans l'hôtel, demander si la personne d'en haut va mieux, puis il retourne s'asseoir. »
Le comte avait quitté le banc pour aller à l'hôtel.
« Monsieur, elle est morte !»
lui crie le concierge. « Nana morte !» Muffa, sans une parole, était retourné sur le banc, le visage dans son mouchoir.
« Nana morte. Par exemple, une si belle fille. »
La foule augmentait. Le cri revenait, sortait de toutes les poitrines.
« À Berlin ! À Berlin ! À Berlin ! »
En haut, au 4e étage, Rose ferme la porte. Nana reste seule. Les pustules avaient envahi son visage. Son œil gauche avait complètement sombré. Son œil droit, à demi ouvert, s'enfonçait. Vénus se décomposait.